Nous vous recommandons de ne pas modifier pendant l'écoute le réglage.
Je capte plus rien.
C'est déjà assez difficile sur la fréquence micro-ondes, mais sur la fréquence modulée avec toutes ces interférences, j'ignore pourquoi je t'écoute.
Vous écoutez Allegre FM.
Il s'agit au contraire de redonner à cette notion de service public son véritable sens.
93.1.
Pourquoi ne pas chercher une aiguille dans une botte d'aiguille?
01 40 24 29 29.
Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux et détendez-vous le plus possible.
Voilà, maintenant vous pouvez arrêter la télévision, vous verrez, ça fait du bien.
Oh là là ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui ? Où en sommes-nous ? Ah oui, c'est vrai. Mais oui, bien sûr, mais évidemment, où avais-je la tête ? Armand, vous êtes plutôt maki, sushi ou sashimi ?
Je suis plutôt sushi.
Alors, c'est quoi le sushi ?
Bah, c'est du riz avec une tranche de saumon dessus.
D'accord. Donc une boule de riz moulée, et puis dessus, on met une tranche de saumon cru, évidemment.
C'est ça.
Voilà. Alors, bon, bah, vous l'avez compris, hein. Aujourd'hui, on va parler... On va aller faire un petit tour au Japon. Allez. En route vers de nouvelles aventures.
Vous savez où vous êtes ? Eh bien, vous êtes sur la messagerie de l'émission L'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Allegre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Au bip, vous laissez votre message.
N'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'étincelle dans la ville. Aujourd'hui avec Armand Gurie. Armand, bonjour.
Bonjour.
Alors Armand, cette émission elle est un peu particulière parce que vous avez une position au sein d'Allegre. D'habitude, on vous retrouve plutôt derrière la vitre. C'est là où vous officiez, c'est là où vous êtes aux commandes de la technique. Et aujourd'hui, parce qu'il vous est arrivé un événement particulier dans votre vie, eh bien, vous êtes sur le plateau avec nous en studio pour nous raconter plein de choses. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Puisque Allegre vient de terminer une semaine spéciale sur le Japon, on avait essayé de monter ce coup-là tous les deux pour une raison simple, c'est que vous êtes parti au Japon pendant près de 15 jours. Alors, ma première question, je dirais, et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire témoigner aujourd'hui, Armand, c'est quand même pas banal, le Japon, c'est loin, c'est très loin de la France, tout le monde ne va pas au Japon tous les matins, c'est clair. Vous, c'était préparé de longue date avec vos parents, avec votre famille, mais la première question qui me vient à l'idée en démarrant cet entretien avec vous, c'est finalement... quelle idée, pourquoi le Japon, une passion pour le Japon probablement. J'ai cru comprendre que c'est un petit peu vous qui avez poussé pour que ça fonctionne et que vous puissiez partir tous ensemble au Japon. C'est bien cela ?
Oui, exactement. Moi, depuis tout petit, je suis fan de manga, de tout ce qui est culture japonaise. Du coup, tout naturellement, ça fait longtemps que j'avais envie d'y aller. Et du coup, on a organisé ça avec ma famille.
Alors, fan de manga et de culture japonaise, c'est vrai qu'on a vu déferler depuis ces 10, 20, 30 dernières années cette folie, cette manga mania, j'ai envie de l'appeler comme ça, chez nos jeunes et nous, moins jeunes d'ailleurs. Alors, ça représente quoi le manga, Armand Gurie, pour vous ?
ça représente ma jeunesse quand je regardais ça à la télé ou quand je lisais ça depuis tout petit.
Il y a des dessins animés emblématiques, on peut peut-être les citer.
Il y a Naruto, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z.
Voilà, alors on va essayer avec l'accent et sans l'accent.
Okay.
Ça, c'est ce qui passe sur les télévisions françaises.
Oui, à l'époque, ça passait. Ça passe toujours, mais moins souvent. Mais ça passe.
D'accord. Et puis alors, en matière de... Parce que finalement, la bande dessinée fait partie aussi de l'univers de la littérature. Les mangas, donc sous forme d'ouvrages, des titres peut-être à me donner, Armand, que vous connaissez.
Black Clover, Inazuma Eleven.
Ça raconte quoi ?
Les mangas décrivent souvent l'histoire d'un antagoniste qui gravit les échelons de la société.
D'accord. Alors, bien sûr... Pour les non-initiés, ça paraît évident, mais pour les non-initiés, le manga papier, il a quand même une particularité dans son sens de la lecture.
Oui, c'est ça, c'est de gauche à droite.
Voilà, c'est-à-dire qu'on garde la mise en page et le sens de lecture japonais. Moi, ça m'a toujours étonné. Je suis tombé sur des mangas, dans ma vie, ça m'est arrivé. Je suis pas un passionné de mangas, je ne m'en cache pas, bien que... Pour moi, ça représente, vu l'engouement, un gros intérêt. Je pense que pour notre jeunesse, c'est quelque chose de très important. Mais le sens de lecture, c'est pas troublant ?
En vrai, non. Quand on s'y habitue, non. C'est pas tant troublant que ça.
On est droitier, on devient gaucher ?
Je ne sais pas comment décrire ça, mais pour moi, c'est mieux naturellement. Quoi.
Alors, revenons à ce voyage au Japon que vous allez d'abord préparer en famille. Hein, c'est une affaire de famille. Alors, racontez-nous la préparation, ça se passe comment ?
Chacun donne ses idées. Tous ensemble, on trie les bonnes et les mauvaises idées ou les choses trop chères, les choses trop loin.
Trop compliqué à organiser.
Trop compliqué, c'est ça.
Trop compliqué à organiser. On essaye de voir quand même ce qui peut... Alors, il y a aussi les goûts de chacun.
Oui, mais après, on a à peu près les mêmes goûts dans notre famille. Du coup, ça a été.
Alors, est-ce que tout le monde dans la famille a le même intérêt, les mêmes centres d'intérêt pour le Japon que ceux que vous avez, Armand ?
Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Après, moins certainement que d'autres.
Parce qu'il faut le signaler, vous êtes parti à 4. Donc, votre père, votre mère et...
Ma sœur.
Votre sœur, voilà. Qui est... Plus jeune ou plus âgé ?
Elle a 5 ans de moins que moi.
Alors, évidemment, des générations différentes, quelle idée ? Comment faire pour coordonner tout ça ?
Ça se fait naturellement. Chacun a donné ses idées, et voilà.
Chacun a donné ses idées, et voilà. Le trajet, l'organisation, on va dire plutôt ça comme ça, sont décidés aussi les points d'intérêt communs, et sont décidées les dates, et un jour, c'est le départ.
On n'a pas fait tout ce qu'on avait prévu, mais oui.
Alors ça, on le verra dans le détail hein, par la suite.
Okay.
Mais finalement, vous partez tous les quatre, un beau matin, pour combien de temps ?
Pour 2 semaines à peu près.
2 semaines, c'est long et c'est court. C'est grand le Japon.
Oui, c'est très grand.
Et c'est petit en même temps. Oui. C'est une île, comme tout le monde le sait. Premier grand voyage, vous aviez déjà fait des grands voyages de
ski ? Oui, j'allais déjà aux États-Unis.
Avec vos parents ?
Non, tout seul.
Tout seul, d'accord. Arrive le jour du départ.
Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de l'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM. Laissez-moi votre message juste après le bip.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
C'est l'étincelle dans la ville, c'est sur Aligre FM avec notre invité Armand Gury. Alors Armand, qui nous raconte son séjour au Japon, évidemment le Japon commence par Tokyo, arrive l'arrivée à Tokyo et d'abord à l'aéroport. Les premières impressions, c'est quoi en atterrissant sur le sol japonais ?
C'est la propreté et comment tout est bien organisé. C'est surtout ça que j'ai remarqué.
Tout est au carré.
C'est ça.
Il n'y a pas un cheveu qui dépasse.
Non, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, c'est ça.
Et ça, vous l'avez retrouvé pendant tout votre voyage au Japon ?
Non, pas dans toutes les villes, mais globalement, oui.
Ça change de ce qu'on connaît en Europe ?
Oui, ça change. Déjà, le métro est moins sale là-bas. Il n'y a pas de déchets par terre. Les gens ne jettent pas leurs déchets. Parce qu'il faut savoir que là-bas, il n'y a pas de poubelle dans Tokyo. Du coup, les Japonais ont l'habitude de ramener leurs déchets chez eux pour éviter de salir la ville.
D'accord. La voie publique n'a aucun risque d'être polluée parce que chacun transporte et gère ses déchets. Et ensuite, ils mettent dans leur poubelle personnelle leurs déchets qu'ils ont emmagasinés au cours de la journée.
C'est ça, exactement.
Alors, vous avez un paquet de sandwich, l'emballage, vous le mettez dans votre sac.
Oui, c'est ça.
D'accord. C'est ce que vous avez donc fait.
Oui.
Bon, ça change des habitudes européennes et françaises où on a des poubelles, en principe, dans les villes, tous les 20 mètres, tous les 50 mètres, tous les 100 mètres.
C'est ça. Ça nous a manqué.
Voilà. Et là, donc, ils ont résolu le problème de ramassage des poubelles de rue. Il n'y en a pas.
Non, il n'y en a pas beaucoup.
D'accord. Donc, tout organisé, très propre. Vous arrivez à l'aéroport. Et alors là, vous m'avez raconté tout à l'heure, en préparant cette émission, moi, je pensais que vous alliez prendre un taxi. Pas du tout.
Non, on a pris le métro.
Prenez le métro.
Moi, j'avais ma carte sur mon téléphone. Du coup, on a scanné comme on fait ici. On doit scanner à l'entrée et à la sortie du métro.
Tout marche bien, tout fonctionne bien.
Oui, tout fonctionne bien.
Et vous arrivez à l'hôtel. Alors à l'hôtel, il vous arrive une drôle d'histoire.
Oui.
L'accueil dans un hôtel. Alors, on est tous habitués en France. Dans les hôtels, il y a une personne physique, une hôtesse d'accueil, un agent de comptoir, le responsable de l'hôtel qui vous accueille pour vous remettre les clés. Et ben vous, ça va pas du tout fonctionner comme ça. Racontez-nous.
Nous, quand on est arrivé, on a été choqués parce qu'il n'y avait personne pour nous accueillir, sauf des écrans avec des personnages qui nous accueillent en anglais pour récupérer nos clés.
C'est-à-dire que quand vous rentrez dans l'hôtel, vous avez un écran, vous avez un personnage sur l'écran qui vous raconte une petite histoire, qui vous présente l'hôtel, j'imagine, qui vous dit comment récupérer les clés, comment fonctionne l'hôtel.
Exactement, exactement.
Et le tout en anglais.
C'est ça, c'est ça.
Évidemment, c'est pas la même chose que quelqu'un de physique, c'est clair, c'est clair.
Oui, c'est ça.
Donc, vous allez dans vos chambres, vous vous installez, et là, vous avez faim.
Oui. Du coup, on est descendu. On avait une Française qui nous a conseillé des endroits pour manger, pour visiter.
Vous l'avez rencontrée comment ?
C'est une organisation qui s'occupait de l'organisation de tout le voyage.
D'accord. Et quelqu'un déjà commence à vous donner les premiers modes d'emploi.
C'est ça, exactement.
Voilà. Et oui, quand on arrive dans une grande capitale comme ça, à l'autre bout du monde, avec une culture tellement différente de des nôtres, c'est sûr qu'il faut s'approprier quand même deux, trois petites choses pour pouvoir y voir plus clair. Et là, vous sortez dans Tokyo ?
Pour aller manger.
Racontez-nous.
Pour aller manger des sushis sur des tapis roulants. En fait, on arrive, on commande sur une tablette et le sushi arrive sur un tapis roulant. Il y a bien une personne pour nous accueillir, pour nous faire asseoir, mais après, on se débrouille tout seul.
D'accord. Il y a quand même quelqu'un. Là, on a de la chance.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Et après, c'est vous débrouillez, vous vous arrangez, un peu comme en France, quand on commande son McDo ou
exactement.
Son sandwich, voilà, sans vouloir citer la marque, mais c'est trop tard. Et ensuite, vous allez le chercher au comptoir, il y a quelqu'un qui vous le donne. Là, ça arrive sur un tapis.
Oui, c'est ça. C'est ça. La nourriture arrive.
Ça veut dire que si on a très faim, on retape sur la tablette et hop,
le tapis. Oui, c'est ça.
Mais alors, comment on sait pour qui c'est sur le tapis ?
J'imagine qu'il doit y avoir un mécanisme pour s'arrêter à l'endroit où vous êtes assis.
Ah d'accord, ça s'arrête devant vous.
C'est ça.
Et vous prenez sur le tapis votre nourriture.
Exactement.
D'accord. Donc ça, c'est le premier repas que vous avez eu à Tokyo après votre arrivée, après avoir quitté l'hôtel.
C'est ça.
Ça fait quoi comme impression de commencer à vivre toutes ces choses-là ? C'est quand même pas très banal.
Non, c'est pas banal. J'ai remarqué aussi que les sushis en grande distribution là-bas ne sont pas les mêmes qu'ici.
Ah bon ? C'est-à-dire qu'ils sont meilleurs ou moins bons ?
Non, ils sont meilleurs parce que c'est japonais. Mais pour eux, les sushis qu'on a commandés là-bas, c'était comme sushi shop ici.
D'accord. Ok, cette première soirée, ce premier dîner, et bien sûr, retour à l'hôtel, ou alors vous allez vous
balader
un petit peu ?
Non, on est retourné directement à l'hôtel. Ouais.
Fatigué, hein, la durée Paris-Tokyo, c'est quelle durée en avion?
Je crois que c'est 14 heures, je crois.
Et oui, c'est aux antipodes. C'est très loin, très très loin. Oui. Et là, une bonne nuit dans un bon hôtel, bien sûr.
Oui.
Et un réveil. Alors, un réveil et un petit déjeuner, j'imagine.
Oui.
Un petit déjeuner européen, japonais?
Moitié. Dans le petit déjeuner, il y avait des onigiri.
Qu'est-ce que c'est que ça, les onigiri?
C'est du riz en forme de triangle, avec à l'intérieur soit du porc ou du thon, et enveloppé dans de l'algue.
C'est chaud, c'est froid?
Normalement, c'est froid. Mais après, on peut le manger chaud aussi.
Donc, un premier petit déjeuner avec de la nourriture locale, japonaise.
Mm.
Et là, la journée se décide. Qu'est-ce qui va se passer?
On nous a attribué un guide japonais qui parlait très bien le français. Et on a visité.
Alors, en préparant cette émission, vous m'avez dit, vous êtes allé dans un musée.
C'est ça.
Le musée Alors, ça va être difficile. Shitamichi, c'est bien ça?
Oui,
Shitamichi.
C'est ça.
Racontez-nous.
Alors, dans ce musée, il y avait des répliques de maisons anciennes, avec du bambou et du papier. Dans ces maisons, c'était les maisons où on fabriquait les lanternes. Il y avait aussi dans le musée des objets ou des éléments de l'ancienne ère au Japon.
D'accord, de l'ancien temps.
Et de l'ancien temps.
D'autrefois.
C'est ça.
D'accord. Alors, ces maisons en bambou, ces maisons en papier, on en trouve encore au Japon?
Très peu, mais...
Vous en avez trouvé dehors, à l'extérieur?
Très peu. Mais il y en a quand même dans certaines régions.
Donc, ce petit passage au musée, c'est déjà un peu de l'histoire du Japon dont vous allez vous imprégner grâce à ce musée.
C'est ça.
Et ensuite, la journée continue, la journée se déroule.
Oui, on est allé à Shibuya.
Alors, Shibuya, c'est une histoire incroyable. Incroyable. Oui. Racontez-nous ça.
Dans Shibuya, il y a une statue d'un chien qui s'appelle
Hachiko.
Et ce chien, il allait avec son maître jusqu'au métro. Il attendait à chaque fois son maître qui partait au travail. Et un jour, son maître n'est pas rentré du travail. Son maître est mort là-bas, du coup, le chien l'a attendu. Et ils en ont fait une statue.
Voilà, pour honorer ce chien et ce maître.
C'est ça.
L'un qui attendait l'autre, le chien si fidèle. Et donc, vous m'avez raconté que c'est dans le quartier des Yakuza.
C'est ça. Mais il n'y a pas beaucoup de... On ne voit pas de délinquance visible là-bas.
Voilà. Alors, les Yakuza, il y a tellement de légendes sur les Yakuza, je risquerais pas à entrer là-dedans. Il y a tellement de choses qui sont racontées sur ces Yakuza. Bon, finalement, vous êtes au Japon, vos premières journées se passent plutôt bien.
Oui.
Mais vous allez aussi quitter Tokyo pour aller dans d'autres endroits. On verra ça un peu plus loin, oui. Un peu plus tard. Ce que je vous propose, Armand, c'est vous qui avez choisi la programmation musicale. Et c'est sur Aligre FM avec notre invité du jour. Nous sommes à Tokyo depuis déjà le début de cette émission en compagnie d'Armand Gurie. Armand Gurie, je le rappelle pour ceux qui prennent l'émission en route, il a un statut particulier et une position particulière sur Aligre FM. D'habitude, il est de l'autre côté de la vitre et c'est lui qui fait la réalisation technique.
C'est ça.
Hein ? Mais là, vous étiez derrière une autre vitre, celle qui vous a fait franchir l'océan et où vous avez découvert Tokyo, car depuis le début de cette émission, vous nous racontez votre voyage à Tokyo avec moult détails. Alors, vous avez visité ce musée avant cette pause musicale. Alors, déjà, la pause musicale, vous pouvez nous en dire deux mots.
La chanteuse s'appelle Miki Matsubara.
Voilà, que tout le monde connaît, bien sûr.
Non, c'est une chanteuse de pop très connue là-bas.
D'accord, une chanteuse pop très connue au Japon. Et qui fait, la jeunesse japonaise donc, se nourrit de ses chansons.
C'est un petit peu, c'est plus vieux, c'est quand même assez vieux.
Ah.
Il me semble, je ne connais pas la date exacte, mais c'est, voilà. C'est pas tout jeune. Quoi.
Et bien, s'il y en a qui ont l'info, qui ne gênent pas pour nous la donner. Donc, vous êtes au Japon depuis déjà un petit temps et vous continuez à vous balader dans Tokyo. Qu'est-ce qui va vous arriver d'autre à Tokyo ?
On est allé à Akihabara.
Le quartier, on va dire le quartier manga. Là-bas, dans ce quartier, il y a beaucoup de boutiques. En fait, c'est le quartier manga quoi, de Tokyo.
Qu'est-ce qu'il a de particulier alors ?
Il y a beaucoup de personnes là-bas qui s'habillent... En personnage de manga. Il y a beaucoup de maîtres café aussi. Maîtres café, c'est des cafés avec des hôtesses qui sont déguisées et qui vous servent.
D'accord. Donc, déguisés. Alors, les déguisements, c'est qu'est-ce qu'il y a comme type de déguisement dans ce quartier ? Bon, j'imagine que ce sont les jeunes qui se déguisent, qui viennent dans ce quartier.
Pas que. Il y a vraiment...
Il y a tous les âges ?
Il y a tous les âges, franchement.
D'accord. Et alors, dans les déguisements, qu'est-ce qu'on retrouve ?
Beaucoup de mangas. Hein.
Des personnages, des héros
héros de manga.
De bande dessinée japonaise.
C'est ça.
De manga.
D'accord. C'est ça, exactement.
Le principe étant de s'identifier à un de ces personnages par son déguisement.
C'est ça. Ou par pur plaisir de s'habiller comme ça.
Donc les gens viennent passer du temps dans ce quartier pour se montrer... Déguisé.
C'est ça.
Et c'est, aussi... c'est un espèce de carnaval permanent.
Oui, c'est ça. Et aussi pour acheter des déguisements ou toutes des katanas.
Alors, le katana, on fait une parenthèse, on s'arrête, parce que là, c'est très important. C'est un objet au Japon qui est évidemment, qui a une importance capitale. Dans de nombreuses civilisations, ce type d'instrument a aussi de l'importance. Mais là, deux mots sur le katana. Qu'est-ce que c'est qu'un katana ?
C'est un sabre, une épée japonaise, utilisée par les samouraïs à l'époque.
Auquel les Japonais sont très attachés ?
Je ne sais pas s'ils sont attachés, mais c'est dans leur histoire.
Alors,
c'est dans leur culture.
Dans ce quartier, on trouve donc des déguisements. On peut s'amuser, on peut boire des coups. On est accueilli par des hôtesses, des serveurs, des serveuses qui eux-mêmes sont déguisés.
C'est ça.
Et les gens passent quoi, une heure, deux heures l'après-midi. Ils se retrouvent pour discuter entre amis. Qu'est-ce qu'ils font ?
C'est le quartier, je crois, le plus touristique de Tokyo. Pour les magasins surtout. Il y a des magasins d'électronique.
Beaucoup de magasins qui prospèrent sur le manga et qui prospèrent aussi sur l'électronique. Bon, il n'y a pas que le Japon qui est un gros consommateur d'électronique, mais c'est vrai que le Japon est un des berceaux quand on voit ce qui se passe avec les consoles de jeux vidéo actuellement, c'est sûr que on comprend. Là, je regardais des images tout à l'heure, avant de venir au studio, sur une chaîne de télévision. Il y a la sortie d'une nouvelle console. Il y a des queues incroyables au Japon, dans les magasins. Il n'y a pas qu'au Japon. Alors, ce quartier, vous allez le quitter et vous allez aussi vous retrouver sur ce fameux carrefour. Je me suis trompé tout à l'heure. Voilà, là, on peut en parler maintenant. Où tout le monde se croise dans tous les sens. Vous m'avez dit, ça ressemble un peu à la comparaison grossière à Times Square aux États-Unis. Mais là, finalement, ce carrefour, racontez-nous.
Ce carrefour, il y a plein de gens qui se croisent, mais c'est organisé. Pas comme à Times Square, justement.
Alors, il y a les voitures qui passent, il y a les piétons qui passent, tout le monde passe dans tous les sens et il y a énormément de publicité. Qu'est-ce qu'on y fait dans ce quartier ? On y boit des coups, on mange, on se balade, y a toute une animation liée à cet environnement très multicolore de lumière, de choses comme ça.
C'est pareil qu'à Akihabara, il y a aussi plein de boutiques, de cafés, de restaurants surtout.
Bonjour, vous savez où vous êtes ? Eh bien vous êtes sur la messagerie de l'émission L'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Au bip, vous laissez votre message.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Et oui, c'est L'étincelle dans la ville, avec notre invité, je le rappelle, Armand Gury, qui nous raconte son voyage au Japon et qui, avec moult détails, nous décrit quand même les choses et la façon dont il a vécu ça. Alors, ça fait quel effet jusque-là ? Ça fait quoi, le deuxième jour, troisième jour, vous êtes à Tokyo ?
Le deuxième jour.
Deuxième jour ?
C'est ça.
C'est évidemment une ambiance très différente de ce que vous connaissez, c'est clair ?
Oui, c'est pas pareil.
Mais est-ce qu'on est à l'aise ?
Bah, on se met facilement à l'aise là-bas, j'ai l'impression. Quand on y est, on a envie d'y rester, quoi.
On a envie d'y rester, oui. On s'y met à l'aise, on y mange bien.
Oui, on y mange très bien.
Voilà. Alors, juste le nom de ce carrefour, j'ai cru noter que ça s'appelait Shibuya.
Shibuya.
Shibuya. Voilà.
C'est le nom du quartier, c'est ça.
D'accord. Et là, va s'écouler encore plusieurs jours à Tokyo ?
Oui. Oui, on a visité d'autres boutiques, des boutiques spécialisées.
Spécialisées dans quoi ?
Surtout dans les studios Ghibli, les animations de Miyazaki.
Ah, racontez-nous.
Ce sont des films d'animation japonais.
Ils sont d'une poésie incroyable.
C'est ça, c'est
incroyable.
Ça.
Pour ceux qui ont eu l'occasion de tomber sur ce cinéma, je vous recommande vivement. C'est vrai que... cet auteur, réalisateur, cinéaste,
oui.
Je ne sais pas comment on peut le situer.
Réalisateur.
Ouais, c'est une création hors du commun. Et là, vous arrivez dans ces magasins pour visionner des films, pour en acheter, comment ça se passe ?
Non, pour acheter des goodies, quoi.
Voilà, parce que vous m'avez dit, je suis revenu évidemment du Japon avec des mangas, des figurines. Et des tas de choses sur l'histoire du Japon.
C'est ça, c'est ça. Une valise ne suffit pas là-bas quand on a envie d'acheter à chaque fois.
Et oui, mais ça, c'est ce qu'on propose aussi à tous les touristes, il ne faut pas l'oublier.
Oui, c'est ça.
C'est aussi pour consommer. Vous continuez votre visite dans Tokyo, tout se passe très bien. Vous êtes accueillis. Alors, ce que vous m'avez dit en préparant aussi cette émission, Armand, c'est qu'au Japon, tout le monde est gentil.
Oui, l'accueil pour les touristes sont très bien. Mais si on se marie avec une japonaise, les beaux-parents ne vont pas vous accepter directement.
Ah, là, c'est un problème d'intégration entre deux cultures, des familles de cultures différentes.
C'est ça.
On peut imaginer que ce n'est pas simple. On va plutôt résumer ça comme ça.
C'est ça, exactement. Mais pour les touristes, ils sont très accueillants.
C'est le principal, en tout cas pour vous, qui vous rendez à ce moment-là au Japon. Et vous êtes en train de voyager là-bas, tout se passe bien. Et vous allez évidemment, à un moment donné, quitter Tokyo. Vous allez faire plusieurs villes. Alors, on va commencer par la première. Est-ce que je prononce bien ? Hakone ?
Oui, vous prononcez très bien.
Et vous prenez un train, j'imagine ?
On a pris le Shinkansen, un train rapide et confortable de Tokyo à Hakone.
D'accord. Le train rapide, le fameux train japonais le plus rapide du monde, enfin un des trains les plus rapides du monde. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous tombez sur le Fujiyama ? Non, c'est pas tout de suite. Au loin ?
Non, c'est au retour.
Ah, c'est au retour. Alors, qu'est-ce que vous allez faire à Hakone ?
On va à Hakone pour les bains, les onsen, les bains publics japonais.
Les bains publics japonais, ça se passe comment ?
On se déshabille complètement, on se lave à l'intérieur, et après on va dans l'eau chaude.
Alors, ce sont des piscines naturelles ou des piscines construites ?
C'était des c'était construit, mais il me semble qu'il y a aussi des bains naturels.
D'accord, mais par contre, c'est de l'eau qui vient de des tréfonds de la terre. Ça.
Oui, c'est ça.
D'accord, ça c'est agréable.
Oui, c'est très agréable, surtout la chaleur, c'est.
Alors, d'ailleurs, on n'en a pas parlé depuis le début de cette émission. Il fait quelle météo quand vous arrivez au Japon et quand vous traversez le Japon?
Bah, les premiers jours, il a plu un petit peu, mais même s'il pleut, je trouve que c'est quand même beau par rapport à sur Paris.
Ah oui, alors évidemment, oui. Vous faites une comparaison, oui, avec Paris, mais Paris n'est pas Tokyo et inversement. Hakone, oui, oui, oui. Ce sont les bains chauds. Qu'est-ce que vous allez faire d'autre sur Hakone?
On y allait spécialement pour ça. On est resté une journée là-bas.
Une journée dans l'eau chaude, à profiter, à se détendre.
C'est ça.
Quand on rentre, on est bien fatigué, hein, quand on a fait ce genre d'expérience dans les bains, les thermes.
On devait aussi voir le. On était censé voir le mont Fuji. À ce moment-là, il était caché par les nuages.
Il y avait des nuages.
Oui.
Et finalement, il y a un deuxième séjour qui va se mettre en place puisque vous allez à Kyoto.
C'est ça.
Alors racontez-nous.
Alors Kyoto, c'est pas pareil que Tokyo. Déjà, Kyoto est plus sale que Tokyo. On va dire que c'est un petit peu la banlieue de Paris. Du coup, il y a beaucoup plus de déchets par terre.
Vous êtes très attentif à ça.
C'est ça. Hein,
c'est ce que je remarque ça. Hein. Alors, qu'est-ce que vous allez faire à Kyoto ?
Bah, on va visiter pendant 5 jours, il me semble. On va visiter les quartiers, les différents temples. Parce que Kyoto est réputé pour ses temples.
Temples bouddhistes.
Oui, et pas que. Car il y a aussi des temples shintoïstes. La différence est liée à l'architecture et aux croyances.
Si vous me permettez, Armand, on va faire une deuxième pause musicale. Alors, pareil, c'est vous qui avez choisi cette pause musicale. Vous nous expliquerez à la fin de cette pause le morceau, le nom du morceau, parce que moi, j'ai pas tout suivi.
Allez, d'accord.
On y va pour cette deuxième pause musicale. Aligre, c'est l'étincelle dans la ville avec notre invité Armand Gury qui nous raconte son voyage au Japon. On est ravis du morceau qu'on vient d'entendre, mais ça demande quelques explications quand même, Armand.
En fait, c'est un rappeur français qui s'appelle Nekfeu. qui a fait une collaboration avec une chanteuse japonaise qui s'appelle Crystal Kay.
Voilà, et ça a donné ce qu'on vient d'entendre. Alors, c'est des choix que vous avez faits et ils sont très judicieux et ça me permet de faire découvrir un certain nombre de choses que je ne connais pas et j'espère pour les auditeurs d'Alix, il en est de même. Alors, on a quitté Hakone, on se balade à Kyoto, on en était resté là avant le début avant le morceau qui vient de passer. Et finalement, on arrive à Osaka. Racontez-nous Osaka.
On a visité le temple doré Kinkakuji.
C'est le temple, ce fameux temple qui est vêtu d'or, qui est très très beau.
C'est un peu comme la coupole des Invalides, qui est recouverte de feuilles d'or, sauf que là, c'est un temple.
C'est ça, c'est ça.
D'accord.
On a aussi visité le Ginkakuji, qui est le temple d'argent.
Alors, le temple d'argent, qu'est-ce qu'il a de particulier ?
Il est très grand et il me semble que la reine d'Angleterre est venue la visiter. C'est ce que le guide nous a expliqué là-bas.
Il y avait des jardins japonais avec des dessins tracés dans le sable.
Donc des dessins qui sont faits sur le sable.
Oui, c'est ça, exactement.
Ça c'est de l'art japonais, c'est une pratique courante.
Oui, c'est de l'art japonais. En fait, dans le temple, ça représente les tracés dans le sable représentent la mer et il y a des pierres qui sont dispersées sur le sable qui représentent les îles.
Eh ben, ça tombe bien, on va faire une petite pause vite fait pour raconter la suite, Armand.
Bien, vous êtes sur la messagerie de l'émission L'étincelle dans la ville, présentée par Babanzeli sur Aligre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Au bip, vous laissez votre message.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Et oui, au bip, vous laissez votre message, c'est l'étincelle dans la ville sur un livre.
Le morceau qu'on vient d'écouter s'intitule Sakura Samishen de Kensei.
Ces fameux dessins dans le sable que vous nous racontez, que vous nous expliquez, c'est une pratique courante chez les Japonais. Comment ça se passe? Vous en avez revu ailleurs? Vous en avez découvert ailleurs?
Non, pas vraiment. On n'en a pas découvert ailleurs, mais il me semble que dans les propriétés privées, il y en a.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver ensuite, Armand?
Ensuite, on a visité la forêt de bambou. C'est une forêt entièrement de bambou. C'est assez connu.
Et il y a aussi le sanctuaire des 10 000 torii, qui sont des portes traditionnelles japonaises, situées généralement à l'entrée des sanctuaires.
Donc, qu'est-ce qu'il a spécial, cet endroit-là ?
C'est plusieurs portes qui se superposent. Quand on prend des photos, on voit toutes les 1000 portes d'affilée.
Ah oui.
En fait, c'est des portes pour les sanctuaires, qu'il y a devant les sanctuaires.
Finalement, ce voyage continue. Et là, vous allez atterrir où ça, après tout ça ?
Osaka.
Ah, alors Osaka.
Ben, Osaka, c'est très petit.
C'est très traditionnel ?
Oui. Plus que Tokyo et Kyoto.
Et qu'est-ce que vous allez y faire à Osaka ?
On y va surtout pour manger.
Ah bon ?
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a de spécial ?
Il y a une spécialité là-bas, mais c'est des boulettes de poulpe fumées.
Ça s'appelle des takoyaki.
C'est très très bon. Je pense que c'est un des plats que j'ai préféré là-bas.
Et ça, c'est une spécialité d'Osaka ?
C'est ça. C'est une spécialité de là-bas.
Alors, Tokyo-Osaka, qu'on ait un peu un ordre d'idée, c'est quelle durée en train ?
C'est une heure, c'est pas très loin.
Osaka, le fameux plat de poulpe, vous vous régalez, tout le monde en profite. Vous vous baladez, vous visitez un peu ?
Oui, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, on y allait surtout aussi pour d'autres boutiques.
Ah, lesquelles ?
La boutique, le Pokémon Center.
Ah ! Un Japon sans Pokémon n'est pas un Japon.
C'est ça.
C'est marrant, j'ai un copain il y a 3 jours qui m'a parlé de Pokémon. Alors Pokémon, avec mon fils, j'ai connu ça évidemment, et tous les parents ont connu ça, ils connaissent peut-être encore ça. Maintenant, les Pokémon, c'est plus des cartes.
Ben, il y a aussi des cartes.
Il reste les cartes, mais il y a aussi les Pokémon sur téléphone qui sont dans les jardins, dans les rues, je ne sais quoi.
C'est ça.
Et quand vous arrivez dans ce magasin de Pokémon, bien sûr, vous sautez sur vos Pokémon préférés. Alors, c'est quoi vos Pokémon préférés, Armand ?
Mon Pokémon préféré, c'est Métamorphe.
Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, celui-là ?
Alors, il peut se transformer en n'importe quel autre Pokémon et avoir les attaques des autres Pokémon.
C'est le Joker total.
Oui, on peut dire ça comme ça.
Voilà. Donc là, vous en aviez déjà des Pokémon dans votre collection, mais là, vous avez agrandi votre collection.
Oui, c'est ça. J'ai acheté ce qu'on appelle des boosters. C'est des sachets avec plusieurs cartes dedans, dont on ne connaît pas le contenu.
Ah, c'est contenu mystère.
C'est ça, exactement. Et on espère avoir une carte qui vaut cher.
D'accord. Racontez-nous alors, comment ça s'est passé, ce magasin ?
Il y a beaucoup de touristes, beaucoup de queues. Et il y a beaucoup de grosses peluches de Pokémon à taille réelle. Il y a beaucoup de goodies sur les Pokémon, en tout genre.
Là, on est dans l'empire du Pokémon.
C'est ça.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire que le Pokémon, alors ça serait une grande découverte pour moi, est né à Osaka ?
Non, puisqu'il y en a à peu près dans les 3 plus grosses villes du Japon.
D'accord, mais là à Osaka, il y a un gros spot de Pokémon, enfin en tout cas, un magasin ou plusieurs magasins ?
Non, il y en a aussi à Tokyo, des gros, à Kyoto.
Ce magasin de Pokémon, ça c'est votre truc. Armand, vous jouez encore au Pokémon ?
Oui.
Ah ouais ?
Enfin, je collectionne les cartes.
D'accord. Ah oui.
Du coup, j'étais obligé de passer par là.
Obligé de passer par là, c'est très clair. Alors, Armand, il vous arrive un truc incroyable. Le chat est un animal vénéré au Japon.
Oui, c'est ça.
Et vous atterrissez dans un temple des chats. Alors, dans quelle ville ça se passe ?
À Kyoto. Ça, le temple s'appelle le Kotokuji.
Avec l'accent. Oui. Le Kotokuji, Alors, racontez-nous ce temple des chats.
Dans ce temple, il y a plein de statues de chats qui représentent des chats, les Manekineko. Les chats avec souvent représentés avec le bras qui bouge.
Ce qu'on voit parfois en France dans certains magasins ou certains restaurants.
Qui nous accueillent, oui.
Qui c'est nous accueillent avec ce petit bras qui bouge. Quelle signification il a ? Ça veut dire quoi ? Pourquoi il a le bras qui bouge, celui-là ? On
ne
sait pas.
Le bras qui bouge, on ne sait pas. Mais le chat est vénéré.
Donc, vous allez dans ce temple des chats. Est-ce qu'il y a des vrais chats ?
J'en ai pas vu beaucoup. J'en ai vu un seul.
D'accord. Que des statuettes de chats dans tous les sens.
C'est ça.
Et sous toutes leurs formes.
C'est ça. Le chat, c'est pour. Les statues de chats sont aussi représentées pour représenter la chance et la fortune aux propriétaires qui.
Bonheur, amour et argent.
C'est ça.
Voilà. C'est pour attirer le bon sort. On peut dire ça comme ça. Alors, il vous est arrivé aussi un drôle de truc, Armand. Vous avez. Alors, tous les Européens ont entendu parler de ça, mais quand même. Vous êtes au Japon, la boisson principale, une des boissons principales au Japon, c'est le thé. Et évidemment, il y a tout un cérémonial dans l'imaginaire des Européens. On a entendu parler de ça, la fameuse cérémonie du thé. Racontez-nous, car vous avez participé à une cérémonie du thé. Comment ça se passe
On nous accueille, on nous habille en tenue traditionnelle, en kimono. Après, on arrive dans une salle avec une dame qui nous explique comment est préparé le thé, comment il est chauffé. Elle nous explique l'histoire des cérémonies du thé.
Alors, comment il est préparé le thé ? Comment il est chauffé ?
Avec une bouilloire, un bol avec de l'eau qui est chauffé. Il y a du matcha à côté.
C'est quoi le matcha ?
C'est une plante qui est moulue pour faire du thé au matcha.
C'est une plante complémentaire que l'on rajoute dans le thé.
C'est ça. Et normalement, dans les cérémonies du thé, on commence par prendre c'est comme un bonbon acidulé. Qu'on mange pour accompagner le thé. On nous a expliqué comment le touiller, comment il fallait le touiller exactement. Il faut faire des petits ronds.
Donc il y a toute une gestuelle qui accompagne cette cérémonie du thé, tout un cycle bien précis avec le bol d'eau chaude, avec cette plante complémentaire qu'on rajoute, rappelez-moi le nom,
le matcha.
Le matcha, de l'eau chaude qu'on met dans la théière, j'imagine, qu'on ressort.
Où on prend l'eau, on le met dans le thé où il y a le matcha dedans, et on touille avec une sorte de touillette qui...
C'est pour battre le...
C'est ça,
pour mélanger.
Pour mélanger.
D'accord. Et tout ça habillé en
kimono.
En kimono, donc l'habit traditionnel du Japon.
C'est ça.
Alors, ça dure combien de temps, la cérémonie du thé ?
Ça dure à peu près 30 minutes, une heure.
Ah oui, quand même.
C'est...
Alors, vous êtes assis par terre ?
Oui, on est assis par terre, soit en tailleur, soit accroupi.
Il a quel goût ce thé ?
Après, tout dépend des goûts de chacun, mais il est.
Doux ? Fort ?
Entre amer et doux. Entre amer et doux, on va dire.
Voilà. Et donc, au bout d'une heure, tout se termine et vous avez donc vécu la cérémonie thé dans la pure tradition japonaise.
Je vous ai expliqué qu'il y avait plusieurs. Comme des mantras qu'on doit respecter. Et on a fait une sorte de prière pour la cérémonie du thé.
Voilà. Donc ça, c'est la cérémonie du thé. Alors, on va revenir à Tokyo parce que, mine de rien, le temps passe vite. Hein. L'étincelle va bientôt se terminer. Mine de rien, voilà, le temps avance. Retour à Tokyo, combien de temps ? Là, vous, en quittant Osaka, vous en êtes au combienième jour à peu près ?
À la fin du voyage.
Retour à Tokyo
on a décollé depuis Osaka.
Ah d'accord, vous finissez votre séjour au Japon à Osaka.
C'est ça.
D'accord. Et là, les yeux remplis d'étoiles, oui. Remplis de souvenirs.
C'est ça.
Remplis de découvertes.
Exactement.
Vous rentrez vous prenez l'avion et vous rentrez sur Paris. Pour terminer cet entretien que vous avez gentiment accepté de nous accorder, c'est une première hein, pour vous, vous aviez jamais donné d'interview. Et Armand, ça fait quel effet d'être de l'autre côté de la vitre?
Ça fait bizarre.
Hein. Oui. Bon, moi, ça m'a fait bizarre aussi, parce que d'habitude, si je vous fais des signes, c'est vous que si vous me faites des signes pour qu'on puisse réaliser nos émissions. Et ben là, on était tous les deux en face à face. Et puis, je voulais remercier, bien sûr, Anaïs à la technique et remercier Bruno Mandé qui nous ont fait ça. Hein, pour vous, c'est une grande première, vous allez remercier. Oui. Allez-y, Armand.
Merci Bruno, merci Anaïs.
Voilà, qui à la technique, les chargés de réalisation, ça s'est bien passé. Oui. Vous quittez Osaka, ça s'est bien passé, vous arrivez en France, et aujourd'hui, avec le recul, ça fait quoi, une quinzaine de jours que vous
êtes rentré ? Oui, ça fait une quinzaine de jours, à peu près.
Comment vous vous sentez par rapport à cette expérience japonaise ?
Je suis un petit peu toujours là-bas, mais j'ai toujours des souvenirs.
Je tiens à remercier bien sûr toute l'équipe technique, je l'ai fait avec Bruno, je l'ai fait avec Anaïs, mais aussi tous les autres, Kumba, Falquast, Bruno, ça y est, je l'ai cité, Armand, je vous remercie aussi en tant que réalisateur technique.
Merci à vous.
Didier Robert, Philippe Denefort, Renaud Poussin, Pierre Nigon, j'oublie aussi René, non je n'oublie pas René, qui vient d'intégrer l'équipe. Je remercie tous ceux qui nous aident à gérer l'association qui gère Aligre FM, bien sûr. Je voudrais aussi au passage remercier la Ligue de l'Enseignement qui est un partenaire très particulier d'Aligre FM. Et puis bien sûr, n'oubliez pas, l'étincelle dans la ville, tout ce qui brille dans la ville, ça tombait bien. Vous étiez dans la ville et vous avez brillé avec les Japonais. Et ça s'est bien passé, vous en gardez un souvenir merveilleux. Et donc une émission sociétale qui nous raconte... Bah, qui nous raconte tout ce qui brille, que parfois vous avez vu des choses que vous n'imaginiez pas au Japon.
Oui.
Un seul truc, s'il y a un truc que vous deviez retenir.
La propreté.
Dès le début et dès la fin de l'émission, c'est la propreté.
Oui.
Ok. Et bien sûr, on se retrouve tous avec plaisir la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne continuation. Et l'étincelle dans la ville, c'est terminé.
Vous savez où vous êtes ? Eh bien, vous êtes sur la messagerie de l'émission « L'étincelle dans la ville », présentée par Babanzelli sur Aligre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Au bip, vous laissez votre message.
Veuillez laisser votre message après le bip.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.